Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ce volume de Karl Marx rassemble trois textes consacrés à la France révolutionnaire et post-révolutionnaire entre 1848 et 1851, les luttes de classe en France. La Constitution de la République française, adoptée le 4 novembre 1848, et le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Il ne s'agit ni d'une chronique neutre, ni d'une histoire institutionnelle classique. Marx y met à l'épreuve sa méthode matérialiste en rapportant les crises politiques aux intérêts, aux alliances et aux conflits des groupes sociaux. La révolution de février. Les journées de juin, la naissance de la Deuxième République. L'élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte et le coup d'État de 1851 forment ainsi les étapes d'une même séquence. L'enjeu central est de comprendre comment une république issue d'un soulèvement populaire peut devenir le cadre d'une restauration de l'ordre social. L'ensemble éclaire également la place ambiguë des libertés constitutionnelles, le recul du suffrage universel et les conditions qui rendent possible le bonapartisme. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la révolution de 1848 lue comme un affrontement entre intérêts sociaux organisés. Dans les luttes de classe en France, Marx refuse d'expliquer les événements de 1848 par les seules idées politiques, les ambitions individuelles ou les accidents parlementaires. Il cherche quels groupes sociaux soutiennent chaque force politique et quels intérêts matériels sont engagés dans leurs choix. La chute de la monarchie de juillet ouvre une situation où ouvriers, petite bourgeoisie, bourgeoisie républicaine, propriétaires fonciers et paysannerie ne poursuivent pas le même objectif, même lorsqu'ils emploient un langage commun de liberté ou de république. Cette divergence devient décisive après février. Les revendications sociales portées par une partie du monde ouvrier entrent rapidement en conflit avec la volonté des possédants de préserver la propriété, le crédit et l'ordre. Les journées de juin 1848 représentent donc, dans cette interprétation, une rupture majeure. L'unité révolutionnaire initiale cède la place à une confrontation ouverte entre classes. Marx ne décrit pas la République comme un simple arbitre placé au-dessus de la société. Il l'analyse comme un terrain institutionnel dont la fonction réelle dépend du rapport de force. Cette démarche donne au livre sa portée durable. Les institutions et les mots d'ordre doivent être lus à partir des coalitions sociales qui les rendent opérants, plutôt qu'à partir de leurs promesses abstraites. Deuxièmement, les journées de juin et la consolidation d'une république conservatrice. La répression de l'insurrection de juin est au cœur de l'analyse marxienne, car elle révèle selon lui la limite sociale de la république née en février. Avant cette crise, la révolution peut encore apparaître comme l'œuvre d'un peuple relativement uni contre l'ancien régime. Après juin, le conflit entre les travailleurs parisiens et les forces défendant l'ordre transforme la situation. La bourgeoisie républicaine, les propriétaires, l'armée et les secteurs sociaux inquiets de l'instabilité se rapprochent contre ce qu'ils perçoivent comme une menace pour la propriété et l'autorité. Marx voit dans cette séquence moins un épisode isolé qu'une clarification politique brutale. Les promesses de droit au travail et de démocratisation sociale se trouvent marginalisées, tandis que l'appareil d'État est employé pour discipliner le mouvement ouvrier. La République conserve ses formes légales, mais son contenu se déplace, elle protège prioritairement l'ordre établi. Cette distinction entre forme politique et fonction sociale évite de confondre l'existence d'élections ou d'une constitution avec une égalité effective de pouvoir. Le texte montre aussi le coût stratégique de la défaite ouvrière. Elle isole durablement les forces démocratiques radicales et facilite des alliances conservatrices qui, quelques années plus tard, affaibliront leurs propres institutions représentatives. Troisièmement, la Constitution de 1848 et la fragilité concrète des libertés garanties. Le texte sur la Constitution du 4 novembre 1848 examine l'écart entre les principes proclamés et les restrictions que leur application légale peut autoriser. Marx s'intéresse notamment au fait que plusieurs libertés, telles que la réunion, l'association, la presse ou l'enseignement, sont garanties sous réserve des conditions terminées par la loi. Son argument ne consiste pas à nier l'importance de ces droits, mais à souligner qu'une majorité politique et un appareil administratif peuvent en réduire la portée au nom de l'ordre public. La Constitution apparaît ainsi comme un compromis instable. Elle affirme le suffrage universel et des libertés civiques, tout en ménageant les instruments susceptibles de les limiter. L'étude relie cette ambiguïté au contexte qui suit juin, lorsque la peur de l'agitation sociale encourage les mesures de contrôle des organisations ouvrières et démocratiques. Marx met également en lumière la tension entre l'universalité formelle des droits et les inégalités sociales qui conditionnent leur exercice. Une liberté identique en droit n'offre pas nécessairement une capacité politique égale à des groupes disposant de ressources, de temps, de presse ou de réseaux très différents. Cette lecture demeure utile pour analyser les constitutions, non seulement comme des déclarations de principes, mais comme des arrangements institutionnels dont il faut étudier les clauses restrictives, les pratiques administratives et les bénéficiaires effectifs. Quatrièmement, le suffrage universel entre instruments d'émancipation et cible de la réaction, le volume accorde une attention particulière au suffrage universel masculin. Conquête majeure de 1848, mais rapidement contestée par les forces conservatrices. Marx y voit un enjeu plus large qu'une procédure électorale. Le vote donne une expression nationale à des groupes jusque-là tenus à l'écart de la représentation, notamment une large part de la paysannerie et des classes populaires. Toutefois, il ne garantit pas mécaniquement une politique sociale radicale. Les électeurs votent dans des conditions marquées par les traditions locales, l'influence des notables, la fragmentation des intérêts et le désir de stabilité après les troubles révolutionnaires. L'élection de Louis-Napoléon Bonaparte montre précisément que le suffrage peut porter au pouvoir une figure d'ordre plutôt qu'une force révolutionnaire. Marx analyse ensuite la restriction du droit de vote par la loi du 31 mai 1850 comme le signe que le parti de l'ordre ne fait confiance au suffrage que lorsqu'il sert ses intérêts. Dès que les résultats électoraux paraissent menaçants, la défense de la propriété et de la sécurité l'emporte sur le principe démocratique. Cette contradiction est essentielle, les élites conservatrices peuvent invoquer la souveraineté populaire tout en cherchant à en réduire le corps électoral. Le livre invite donc à évaluer la démocratie par la permanence réelle des droits politiques et non par leur seule inscription initiale dans un texte constitutionnel. En dernier lieu, le bonapartisme comme produit de la division politique et de l'autonomie de l'État. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte prolonge l'analyse jusqu'au coup d'État du 2 décembre 1851. Marx y étudie comment Louis-Napoléon Bonaparte peut s'imposer alors que les principales classes et factions politiques se neutralisent ou se divisent. Les légitimistes et les orléanistes, réunis dans le Parti de l'Ordre, défendent des intérêts communs contre la gauche. Mais leur rivalité limite leur capacité à gouverner durablement. Les républicains démocrates restent affaiblis par les défaites antérieures, tandis que le mouvement ouvrier est réprimé. Dans ce contexte, le pouvoir exécutif, l'armée, la bureaucratie et la présidence acquièrent une marge d'action croissante. Marx ne présente pas le coup d'État comme le simple succès personnel d'un dirigeant. Il l'interprète comme l'issue d'un équilibre dégradé où les forces dominantes préfèrent sacrifier une part du contrôle parlementaire plutôt que risquer une mobilisation populaire. Le soutien recherché auprès de la paysannerie est également décisif, car le nom Bonaparte peut y incarner la promesse d'ordre, de protection et de grandeur nationale. La notion de bonapartisme désigne ainsi une forme de pouvoir qui se pose en arbitre au-dessus des classes, tout en consolidant les conditions sociales existantes. Elle fournit un outil d'analyse pour penser les régimes fondés sur la personnalisation du pouvoir, l'appel direct au peuple et l'affaiblissement des médiations représentatives. En conclusion, ce recueil s'adresse en priorité aux étudiants en histoire, sciences politiques, philosophie et sociologie. Mais il reste précieux pour tout lecteur souhaitant comprendre les rapports entre crise sociale, institutions représentatives et concentration du pouvoir. Sa lecture demande de l'attention Marx écrit dans le feu d'événements complexes. Mobilise de nombreuses forces politiques françaises et défend une perspective théorique nettement située. Cette densité constitue aussi son principal intérêt intellectuel. Le lecteur apprend à distinguer les principes affichés des fonctions concrètes des institutions, à relier les alliances parlementaires à leur base sociale et à examiner les effets politiques de la répression ou de la restriction du suffrage. Il ne faut pas y chercher une synthèse impartiale de la Deuxième République. Certaines catégories marxiennes peuvent simplifier la pluralité des motivations sociales, culturelles ou générationnelles. Mais cette limite peut devenir féconde si le livre est lu comme une interprétation argumentée à confronter à d'autres historiens. Par rapport à un manuel sur 1848 ou à une biographie de Napoléon III, ce volume se distingue par son analyse de l'histoire immédiate. Les événements y servent à élaborer des concepts, notamment celui de bonapartisme, plutôt qu'à être seulement raconté. La réunion des trois textes permet en outre de suivre une continuité allant de la Révolution de février à la destruction de la République parlementaire. C est donc un classique exigeant pour penser les conditions sociales de la démocratie et de ses reculs. Si vous souhaitez soutenir Karl Marx, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.